France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne se sont intéressés à l'Hérault toute cette semaine. Les épisodes précédents sont disponibles en podcast. Et je vous recommande notamment, si vous l'avez manqué, l'émission de mardi qui était consacrée à Cuisine d'ailleurs, une association installée à Béziers qui propose un service de traiteur du monde entier. En cuisine, ce sont des personnes en exil, des demandeurs et demandeuses d'asile qui mélangent leurs recettes. Et la créatrice de cet asso était très touchante en racontant les pouvoirs de la cuisine pour ouvrir les esprits. Cuisine d'ailleurs, c'est à Béziers. Aujourd'hui, nous parlons bricolage avec un Repair Café qui vient de se lancer du côté du Pic Saint-Loup. Réparer les objets du quotidien quand ils tombent en panne, c'est une bonne idée pour la planète et c'est aussi très satisfaisant. Mais d'abord, j'appelle une femme qui produit dans l'Hérault un produit qui souvent vient de très très loin. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Un peu de piquant dans les carnets. La parole est à une productrice de piments. Activité portée par un phénomène. Les Français et Françaises aiment de plus en plus les sauces piquantes. Bonjour Gladys Maric.
Bonjour.
Vous êtes à Saint-Étienne-de-Gourgas, près de l'Odève. Les piments du bout du monde, c'est le nom de votre exploitation. Référence au cirque du bout du monde, qui est une corniche qui surplombe votre village. Quelle variété de piments cultivez-vous, Gladys ?
Je cultive une vingtaine de variétés de piments, du piment le moins fort qui est le piment végétarien, jusqu'au piment le plus fort qui est le Carolina Reaper.
Le Carolina Reaper, c'est le piment le plus fort du monde, non ?
Oui, tout à fait. Après, il y en a un plus fort encore qui a été créé par le même créateur, Ed Curry, mais il ne le commercialise pas pour le planter, en fait. Mmh. Il est trop fort, il n'est pas mangeable.
Tellement fort qu'il est immangeable. Bon, le Carolina Reaper, ça fait pleurer carrément, non ?
Ah, le Carolina Reaper fait pleurer partout, mais transformé, il est très très bon.
Alors, on a vu passer plusieurs articles dans la presse qui disent que la consommation de piments est en hausse en France, notamment en raison d'une émission de télévision où les invités sont interviewés pendant qu'ils dégustent des sauces piquantes. C'est aussi sans doute l'appétit grandissant pour les cuisines asiatiques qui explique ce succès du piment. Est-ce que vous constatez un phénomène piment, Gladys, à votre échelle ?
Alors oui, j'ai un nouveau type de clientèle qui vient me voir pour déguster sur les marchés, des jeunes qui ont envie de sensations fortes et de pleurer et de se faire mal. Mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas la majorité de ma clientèle, c'est assez nouveau, oui.
Le reste de la clientèle, c'est plutôt quel profil ?
Ce sont plutôt des expatriés, des gens qui ont vécu dans les îles, des gens qui ont vécu en Afrique et qui ont envie de retrouver les goûts de chez eux sans que ce soit trop transformé par des kilomètres et des choses comme ça.
Alors vous vendez justement vos piments cuisinés, transformés, vous concoctez des sauces que vous commercialisez. Quels sont les autres ingrédients de ces sauces ?
Alors du coup, je fais un petit peu de maraîchage à côté pour pouvoir m'auto-produire au niveau de mes sauces, parce que jusqu'à maintenant, j'achetais à mes collègues maraîchers qui étaient autour de chez moi. Mais voilà, maintenant, j'essaye de m'auto-produire. Donc j'ai de l'ail, des oignons, de l'échalote, des tomates.
Et qu'est-ce que vous faites comme sauce, comme recette ?
Alors, par exemple, je vais faire une sauce barbecue qu'on a élaboré avec un collègue chef du coin qui arrache quand même pas mal, mais qui a un bon goût de fumée avec mes tomates.
L'échelle de Scoville, c'est ce qui permet de mesurer la force des piments. Donc les vôtres sont répartis tout le long de cette échelle.
Oui, j'ai à peu près toute l'échelle. C'est pas vraiment concentré sur un niveau. Ça va de 0 à 10 sans problème.
Et quel est votre préféré à vous ?
C'est le piment habanero jaune. C'est un piment qui est très fort, mais qui a un parfum des îles phénoménal. Il est très, très, très parfumé. Mais bon, il ne faut pas le manger comme ça, quoi.
Alors, c'est votre troisième métier, Gladys. Vous avez d'abord travaillé dans l'hôtellerie et puis dans la formation web. Et aujourd'hui, donc, vous êtes paysanne. Est-ce que vous avez prévu beaucoup d'autres carrières ensuite ?
Non, je vais m'arrêter là, je pense. Je pense que j'ai trouvé ma voie quand même.
Et comment avez-vous décidé de vous lancer dans cette production de piments ?
J'ai grandi à Toulon, enfin La Seyne-sur-Mer, à côté de voisins qui étaient réunionnais. Et donc de chez eux, il y avait toujours des bonnes odeurs de cuisine épicée, des îles. J'ai toujours adoré avoir la part pour adultes, celle qui pique. Et voilà, après je suis venue m'installer sur Montpellier pour travailler. J'avais encore du piment sous la main. Et en venant sur l'Audève pour rejoindre mon conjoint, ben là il y avait un peu moins de piment. Et du coup, il fallait aller à Montpellier pour en chercher, et il n'était pas forcément très éthique, ce piment que j'achetais. Donc j'ai commencé à cultiver avec mon conjoint, on a fait des tests dans notre potager, et de fil en aiguille, j'ai commencé à transformer, à faire goûter autour de moi, et voilà, j'en suis maintenant, je suis exploitante agricole.
Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui veulent pleurer, qui veulent se faire mal. Votre ambition à vous, c'est plutôt de montrer que le piment, ça n'est pas que ça, justement.
Tout à fait. Moi, l'idée, c'est vraiment de faire des préparations pour tout le monde, pour ceux qui ont envie de pleurer, mais aussi pour majoritairement pour montrer aux gens que le piment, c'est comme du bon poivre, en fait. C'est le dosage qui compte et la cuisine qui compte. Après, on peut manger le piment le plus fort du monde dans une confiture de rhubarbe, par exemple. Cuisiner dans la confiture de rhubarbe, eh ben, ça va pas être pire qu'un autre piment. Mmh. C'est juste la cuisine. Voilà.
Et vos piments sont bio ?
Mes piments sont bio, tout à fait.
C'est compliqué à tenir, ça, ou ça va ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai toujours cultivé en bio. C'était une question de label, et du coup, j'ai choisi de prendre le label pour pouvoir rentrer dans des magasins bio et faire des marchés bio. Mais moi, ça n'a rien changé à ma façon de cultiver, donc voilà. Le plus dur, c'est l'administratif, en fait.
Les piments du bout du monde, c'est à Saint-Étienne de Gourgas, dans l'Hérault. Merci beaucoup, Gladys Maric.
Merci, Dorothée.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Et si vous preniez le pouvoir sur les objets, les machines, les outils, les trucs et les machins qui vous entourent, apprendre à réparer, c'est assurément un levier essentiel pour réduire son bilan carbone. Ne plus jeter le grille-pain à la première panne, mais l'ouvrir, comprendre et rallonger sa durée de vie. Les Repair Cafés sont là pour ça. Ils se multiplient un peu partout en France depuis une quinzaine d'années. Voici celui du Pic Saint-Loup à Claret et dans les villages alentours à une trentaine de kilomètres au nord de Montpellier. Bonjour Jérôme Tonna.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire à la retraite, Jérôme, et c'est vous l'initiateur de ce projet assez récent à Claret. Le Repair Café du Pic Saint-Loup a démarré en octobre dernier. Vous vous êtes inspiré d'un autre Repair Café ?
Oui, c'est ça. Dans un village à une vingtaine de kilomètres d'ici, c'est une amie d'ailleurs qui l'avait initié. Et en voyant cette expérience-là, j'ai eu envie de faire la même chose. Et assez vite, j'en ai parlé à des amis du village autour de moi. On s'est retrouvés à deux ou trois, est assez emballés par l'idée. On s'est rapprochés d'une association à Claret qui s'appelle l'Atelier de Claret. Et ben voilà, on s'est lancé dans l'aventure. On a dit, allez, on essaye d'ouvrir des ateliers de réparation publique comme ça. Et ce Repair Café de Montferrier là nous a beaucoup aidé au début puisqu'ils nous ont accompagnés sur la mise en place de l'atelier de réparation. Ils ont prêté leurs outils pour pouvoir démarrer nos premiers ateliers.
Et comment s'est déroulé le tout premier atelier ? Ça a bien marché tout de suite ?
Oui, c'était assez extraordinaire. Oui, ça a bien marché tout de suite. On devait être, je pense, une vingtaine de bénévoles qui étaient dans la salle polyvalente là du village. Et puis il y a eu une quarantaine d'objets qui ont été présentés. Donc on a été assez surpris parce qu'au début on avait un peu peur, on se disait est-ce qu'il va y avoir suffisamment de visiteurs, est-ce qu'on va avoir suffisamment de réparateurs qui vont venir, et en fait ça a marché tout de suite très très bien, et après on a retrouvé à chaque fois tous les autres ateliers, c'est les mêmes ambiances, enfin c'était vraiment très enthousiasmant.
Comment ça fonctionne ? On vient réparer soi-même ou alors on est aidé par des bricoleurs et bricoleuses aguerris ?
Oui, il y a des bricoleurs et bricoleuses aguerris, donc les gens amènent leur appareil. Et puis il le répare avec le bénévole réparateur qui montre comment il fait, qui pose des questions. Et puis normalement, on en ressort avec une compétence renforcée. On doit être capable au moins de réparer la même panne que si elle se reproduit chez soi.
Un petit inventaire à la Prévert. Qu'est-ce que vous avez réparé depuis la naissance de ce Repair Café ?
Alors c'est hyper varié, hein, mais on a beaucoup, comme l'eau est très calcaire ici, on a beaucoup de cafetières ou de machines à café, des tronçonneuses, des perceuses, tout ce qui est matériel de cuisine, autocuiseur, friteuse, etc. Le truc le plus rigolo qu'on ait réparé, c'est une machine à barbe à papa.
C'est un marché de niche.
Voilà, c'est un marché de niche. Et d'ailleurs, elle est venue deux fois parce qu'elle a eu une première panne. qu'on a réparé. Elle est revenue 3 mois plus tard avec une autre panne et la personne avait apporté du sucre pour faire des barbapapa et pour en offrir à tout le monde pendant l'atelier. C'était très sympa.
Le plus difficile, j'imagine, c'est d'identifier la panne.
Oui, c'est ça. Et c'est difficile parce que autant que possible, on essaye de savoir quand les gens arrivent avec leur appareil, d'être en mesure de leur dire tout de suite, oui, on va essayer de le réparer ou non, c'est pas la peine d'attendre parce que ça va pas être possible. Donc, on essaye de le faire. Et puis, après, c'est le travail. Moi, je suis pas du tout réparateur, hein. Moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est animation, organisation, accueil. Mais on a des réparateurs qui sont vraiment bons, hein, qui sont vraiment très chevronné. Alors, ce qui est génial, c'est le plaisir que ces réparateurs ont à trouver la panne et à la réparer. C'est un truc qui est vraiment qui contribue à la bonne ambiance de ces ateliers de réparation. Là, c'est vraiment bien.
Oui, c'est beaucoup de satisfaction, hein, de réparer quelque chose.
Oui, oui, c'est un peu comme un jeu d'énigmes, en fait. Quand on voit les réparateurs travailler, ils se mettent souvent à deux et autour de l'appareil, et puis ils testent les choses, ils discutent et ils montrent à la personne qui a apporté l'objet, et puis. Quand ils trouvent la solution, Et alors, ce qu'on fait, c'est que quand un appareil est réparé, l'accueil est prévenu et on a une cloche à l'accueil et on agite la cloche. C'est une cloche de chèvre que j'avais récupérée et tout le monde s'arrête et tout le monde applaudit, tout le monde dit ouais, bravo. Et puis donc ça donne une ambiance, ça rythme un peu le déroulement de l'atelier. C'est très sympa comme ambiance.
Combien de sons de cloche par atelier du coup?
Oh ben, à peu près, on a une 20-25 sons de cloche par atelier.
Ah oui.
En moyenne, on a à peu près une cinquantaine d'objets qui sont amenés à chaque fois et on en répare la moitié.
Je parlais tout à l'heure du bilan carbone. Il y a un enjeu très fort, hein, sur la réparation. C'est vraiment pas un détail de réparer les objets du quotidien.
Ah oui, c'est hyper important, à la fois sur les objets eux-mêmes et puis sur toutes les ressources primaires qui servent à fabriquer ces objets-là. Et c'est vrai que nous aussi, alors on s'amuse à peser les objets quand ils sont apportés. Et comme ça, après, on pèse, on dit on a sauvé tant de kilos de la déchetterie.
Oui.
Donc là, on est à 880 kilos.
Vous frôlez la tonne.
Voilà, on vise la tonne, oui.
Qu'est-ce que vous conseillez à ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient se lancer, qui voudraient créer un repair café chez eux? Ça demande évidemment pas mal de bénévoles et pas mal d'énergie aussi.
Oui, faut avoir confiance dans cette histoire-là, parce que là, on voit bien, on accompagne des, alors, du coup, on a été accompagnés, nous, pour démarrer. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont venues d'autres villages qui sont plus loin en disant, on voudrait faire la même chose, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, je crois que déjà, il faut s'appuyer sur des expériences qui existent, qui donnent un coup de main au départ, c'est assez utile. Et puis, faut avoir confiance dans l'affaire. Tout le monde est angoissé avec le premier atelier de réparation, nous, on l'était, les jeunes, Repair Café qu'on accompagne sont pareils. Et en fait, c'est magique, ça marche à chaque fois. Mais le nombre de bénévoles, nous, on a démarré, on avait, je crois, une vingtaine de bénévoles qui étaient de personnes qui avaient dit, moi, ça m'intéresse, je viendrai probablement. Et là, maintenant, on est à 70 des gens qui se sont inscrits en disant, ben, moi, je veux bien participer à vos affaires. Donc ça s'étoffe assez vite.
Et au-delà de la réparation, il y a tout un enjeu de lien social?
Oui, ça c'est énorme, ça. À la fois entre les réparateurs, qui se donnent des coups de main, etc., qui sont de villages différents, hein. Les gens viennent, il y a une quinzaine de villages. Et puis, entre les visiteurs, il y a même des gens au village, là, à Claret, quand on fait des ateliers de réparation, il y a des gens qui n'ont pas d'appareil à réparer, mais ils viennent juste pour l'ambiance. Il y a un petit café qui est offert, des petits gâteaux, il y a des gens qui amènent des tartes ou des gâteaux qu'ils ont fait, et puis on termine tout ça par un petit apéro convivial. Oui, c'est hyper important, je pense, pour fidéliser aussi le réseau de réparateurs pour que les gens aient envie de continuer à venir et à donner de leur temps, c'est hyper important.
Ça vous rend fier, tout ça, Jérôme?
Oui, ça me rend très fier. Ça me rend très fier. Moi, pas moi personnellement, mais je pense qu'on est fiers collectivement de ça, parce que je crois que c'est vraiment. Enfin, on est tous persuadés que c'est important de développer des relations comme ça, de bienveillance, d'entraide. Au niveau local, dans les villages, c'est surtout par les temps qui courent, c'est quand même des valeurs et des activités qui sont précieuses.
Voilà, ça se passe un samedi par mois, hein, à Claret et dans les villages alentours, pas loin du Pic Saint-Loup, donc le Repair Café du Pic Saint-Loup. Merci beaucoup, Jérôme Tonin.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée, au revoir.
Merci à vous aussi, au revoir.
Je remercie l'équipe des Carnets de campagne, Sophie Hoffmann et Lila Rapoport à la préparation des émissions, Guillaume Roux à la technique aujourd'hui. Sachez que la Seine-Maritime sera bientôt au programme, alors n'hésitez pas à nous écrire pour signaler des initiatives positives et des gens géniaux à Rouen, au Havre, à Dieppe, à Fécamp et dans tout le département 76.